19h-20h, en direct de La Réunion. 17h-18h en métropole. Radio Campus s'installe à Saint-Denis-de-la-Réunion. Trois émissions en direct pour la 16e édition des Électropicales. Radio Campus France s'associe avec le plus grand festival de musique électronique de l'océan Indien.
Salut auditeurs, vous êtes en direct du festival Les Électropicales à Saint-Denis de la Réunion. C'est Léna au micro, alias Léna de Radio Grenouille, et je suis avec Hugo de Radio Campus Angers. Salut Hugo.
Salut Nina, salut tout le monde, salut à toutes et à tous.
Et salut Thomas qui est aussi à ma gauche.
Ouais, je suis à ta gauche et je resterai toujours à gauche.
Ah. On est bien d'accord. Hier, nous étions ensemble pendant une heure pour le premier plateau de cette série. Et aujourd'hui, c'est reparti. Cette fois-ci, on est en direct de Château Morange. 19h à 20h, heure locale, et 17h à 18h pour vous, auditeurs. Les Électropicales, c'est une trentaine d'artistes, de collectifs, de DJ qui nous font danser et vibrer au rythme des musiques électroniques pendant 4 jours de festivités. Au programme d'aujourd'hui, on s'intéresse à une des thématiques centrales du festival, la célébration des cultures indo-océaniennes. En première partie, on accueillera Thomas Bordez et Enora Pellerin, co-programmateurs du festival et à l'initiative de la compilation digitale Kabar avec le label Infine. On partagera le micro avec Nina de Campus FM pour discuter avec les artistes Label puis avec Force Indigène, tous artistes pionniers de l'électronique Maloya. On reviendra un petit peu plus tard sur ce que ça veut dire. Aussi, Sibou Manaï et Jalia, toutes deux artistes ayant à cœur l'influence traditionnelle Maloya, partageront leur vision de la création contemporaine. Et tout ça rythmé, bien sûr, par une programmation musicale au poil, spéciale Digital Kabar. On va explorer une constellation de points de vue artistiques autour de la création musicale créole, d'influence maloya, réunionnaise, fusion, créolisée, interculturelle, bref, beaucoup de mots et de concepts qu'on entend ici. Et peut-être que le point de départ de tout ça, c'est de nous situer, nous, l'équipe Radio Campus. Quand on a débarqué dans la métropole, on nous a appris le mot oreille.
Quand on a débarqué de la métropole, effectivement, le premier mot qu'on nous a appris, c'était le mot oreille. C'était au bar, c'est l'équipe des Électropicales qui nous a fait savoir que nous étions des oreilles. Ils nous ont dit, ah ouais, c'est important ça, faut absolument que je vous raconte. Et effectivement, c'est important. La Réunion porte bien son nom. Sans vous faire un historique précis de l'île, le métissage est au cœur de la culture créole réunionnaise. Inde, Chine, Madagascar, vieux continent, toutes ces influences se retrouvent notamment sur la carte des restaurants. Ici, le mot race peut être parfois employé pour te demander d'où tu viens. Alors toute une terminologie communautaire s'est développée. Petit blanc, gros blanc, malbars, arabes, chinois, marrons ou encore cafres. Et d'ailleurs, Thomas, à ce propos, t'as fait une rencontre tout à fait singulière.
Absolument. En tout bon journaliste qui se respecte, partout où je vais, je pose des questions. Et c'était dans l'avion entre Paris et Saint-Denis-de-la-Réunion vers les 4 heures du matin. Après quelques planteurs, il y a une petite annonce pour acheter des cigarettes, machin, tout ça. Enfin, vous connaissez. Je me retrouve donc à l'arrière de l'avion à discuter avec Stéphane qui est steward, et sort ce mot « oreille ». Je ne l'avais jamais entendu. On en parle avec lui, mais c'est surtout la suite qui nous intéresse.
Là, juste pour vous situer, on est à l'arrière de l'appareil,
ouais,
pour la Réunion.
Exactement. Donc un oreille, c'est un blanc. Et un créole, c'est un local. Après, il y a différents créoles, créoles malbar, des créoles noir-marron, enfin nec marron. Il y a plein de différences, il y a beaucoup de populations différentes à la Réunion.
Ok. Voilà. Et nec marron, ça n'a rien à voir avec la partie de la Guadeloupe.
Non, bah, ça, en fait, c'est souvent des Africains qui viennent du Mozambique, ou d'autres pays du Kenya, et qui étaient emmenés en esclavage, des vendus par les Hollandais, Portugais, Français, sur les propriétés, mais il y en avait bien moins qu'aux Antilles. Voilà. Et ils travaillaient la canne à sucre aussi, mais qui était moins présente, même aujourd'hui, qu'aux Antilles.
Okay. Voilà, Stéphane, en fait, avait glané toutes ces informations-là après 21 ans de carrière sur cette compagnie dans laquelle nous étions, enfin, nous avons voyagé. Et l'idée, c'était de savoir effectivement entre nous si c'était exact toutes ces choses.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il nous disait aussi qu'un Zorey, c'était un blanc. Alors, pas tout à fait, hein, parce que Daniel Waro, par exemple, un grand maître du Maloya, blanc, et ben lui, c'est pas un Zorey. On dirait plutôt de lui que c'est un Yab, un blanc des hauts de l'île. Les oreilles, eux, eh bien c'est nous, ces blancs métropolitains aux oreilles rouges chauffées par le soleil. Évidemment, l'origine du mot oreille est multiple. Peut-être est-ce parce que nous, métropolitains, tendons l'oreille pour comprendre la langue créole. Peut-être est-ce parce que lorsque les colons métropolitains arrivaient sur l'île, étaient-ils là pour espionner la population locale et en rendre compte à Paris? Ou alors est-ce parce que les blancs coupaient les oreilles des esclaves qui s'échappaient des plantations?
Et évidemment, le mot « zorey » peut être aussi bien négatif que désignatif.
Ouais, pour une partie des créoles réunionnais anticoloniaux, le mot « zorey » renvoie à quelque chose de très péjoratif. Arrogance, mépris de la culture locale, ces blancs métropolitains qui remplaceraient et invisibiliseraient la population créole. La place des oreilles est aussi régulièrement critiquée. Le gouvernement organise des ponts d'or aux fonctionnaires, aux médecins, aux kinésithérapeutes. On parle alors des oreilles comme des chasseurs de primes. Et comme toutes les communautés, eh bien les oreilles se retrouvent entre eux et reproduisent des schémas sociaux qu'ils connaissent, classiques, familiers. Ainsi, Saint-Gilles est surnommé plus ou moins amicalement Oreilland. Alors, entre oreilles, blancs, métropolitains, français, eh bien chacun de ces mots peut être entendu différemment. Tout cela dépendra de la bouche qui le dira ou de l'oreille qui l'entendra.
Et d'ailleurs, on a des oreilles partout en métropole sur les ondes. Tours,
Grenoble,
Orléans,
Rouen,
Brest,
Angers évidemment,
Montpellier,
Poitiers,
Caen,
Clermont,
Nancy,
Metz,
Dijon,
Marseille bébé,
Corté,
Toulouse,
Rennes,
Amiens
et Paris.
Bang bang.
Pas moins de 19 villes pour 18 radios du réseau Campus France diffusent ce plateau en direct de Saint-Denis de la Réunion. On sera ensemble pour une heure. C'est parti.
Ayo, 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 ayo,
C'était Cabaret à terre, un remix de Jaco Marron avec Patrick Manant. Un voyage électronique de 8 minutes aux sonorités Maloya, qu'on a donc un petit peu coupé. Le Maloya, musique et danse traditionnelle de l'île de la Réunion. C'est le premier morceau de la compilation Digital Cabar volume 1. Une compilation singulière signée par le label Infiné et le festival Les Électropicales. Et ça tombe très bien parce que nous sommes avec deux des architectes de cette compile. Thomas Bordez, co-directeur et co-programmateur des Électropicales, et Nora Pellerin, co-programmatrice des Électropicales et du label Infiné. Bonsoir.
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 Est-ce que de le réentendre ce morceau, ça vous rappelle des souvenirs un peu? Bon, vous devez le réentendre souvent quand même. Et Nora,
ouais, non, moi je l'écoute souvent et oui, forcément. Mais puis on parle de Jaco Marron qui est vraiment un des pontes justement qui a commencé à mélanger la musique traditionnelle maloya au synthé à l'électronique. Il y en a d'autres des plus jeunes qui suivent derrière, mais on peut vraiment dire que c'est un des premiers. Donc c'est vraiment une des, ouais, des figures du maloya, de l'électro-maloya comme nous on appelle ça entre nous aujourd'hui.
Le Digital Cabar, c'est une initiative donc signée Festival Électropical. Thomas, je crois que ça fait quelque chose comme 20 ans que tu habites à La Réunion, donc quelque chose comme ça.
25 ans.
25 ans, j'étais pas très loin. Alors, donc, tu étais aussi cofondateur du coup du festival. Ça a démarré comment, cette idée un peu folle?
Bon, alors nous, c'est une histoire un peu rigolote parce que moi, j'étais un joueur de rugby à l'époque à Saint-Denis. Donc, on démarre sur un terrain de rugby avec les copains, en se disant que c'est dommage qu'il n'y ait pas de festival à Saint-Denis. C'est vrai qu'il n'y avait pas une grande offre culturelle à l'époque sur la capitale. Donc on se dit, un jour, en rentrant d'une grosse défaite à Saint-Pierre, qui est la capitale du sud de l'île, on se dit, bon, on va faire un festival, ou enfin, c'était même pas l'idée d'un festival, c'est une soirée, sur notre terrain de rugby, avec nos partenaires, avec les gars qui on est allé couper des bambous dans les ravines pour monter des bars, et puis pour lancer la première soirée en 2009. Et on a eu la chance d'avoir des partenaires qui étaient là ce soir-là qui nous disent « Ah, c'est bien ce que vous faites, on va vous aider ». Et puis c'est parti comme ça, sur une idée un peu de troisième mi-temps.
Et pour Digital Cabar, c'était aussi une idée de troisième mi-temps, ça s'est passé comment? C'était une rencontre? Peut-être Nora pourra en parler aussi.
Vas-y. Oui, elle aura le côté in fine. Ouais. Nous, c'est sur un coin de table avec Alexandre Kazak, on est à Paris. Alors, c'était pas troisième mi-temps, là, c'était plutôt le matin. Je sais plus ce qu'on avait fait là-bas. On avait fait des soirées, certainement, ou des festivals. Et on parlait de cette scène réunionnaise assez foisonnante, assez riche. Et je lui disais qu'on avait beaucoup d'artistes, que c'était pas mal. Et lui, comme il est assez fou, et peut-être plus fou que moi encore, il me dit... Allez, on y va, on rassemble des titres et on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Et c'est parti sur cette idée d'un coin de table dans un resto à Paris. Et on a construit ça petit à petit en créant, un petit peu en regardant, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même assez de richesse pour créer un premier album qui allait être une rétrospective un petit peu de d'où est-ce que c'est parti et jusqu'où ça a mené. C'était le passé en fait, c'était l'histoire.
Et donc c'est l'alliance aussi avec le label Infiné. Comment ça s'est passé pour du côté de Infiné, tu en étais à ce moment-là, Enora?
Ouais, bien sûr. Et en fait, les Électropicales programmaient déjà des artistes d'Infiné, donc en fait, on était déjà assez liés et on avait déjà des artistes réunionnais signés chez nous comme Label, par exemple, le premier.
Ouais, qu'on entendra un petit peu plus tard d'ailleurs pendant ce plateau. Ouais.
Voilà. Et en fait, les connexions se sont faites très vite. Je viens de La Réunion, donc en fait, quand moi aussi j'ai rejoint Infiné, il y avait un truc très simple qui faisait un peu le lien. Et effectivement, construire cette fresque historique est devenu super intéressant, même politiquement.
J'allais le dire, ouais.
Voilà, pourquoi à un moment le maloya était interdit, pourquoi les gens se sont mis à faire du maloya sur des synthés parce qu'ils trouvaient plus les instruments traditionnels pour jouer du maloya, comme le cayambe, le rouleur, etc. Et bah, un peu tous passionnés par ça. Alexandre Kazak est aussi quand même très amoureux de l'île et de sa culture. Donc en fait, après, ça a découlé de façon assez instinctive.
D'ailleurs, petit point de vocabulaire, parce que j'ai été très brève dans la définition de ce que ça représente, en fait, le maloya. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Et d'ailleurs aussi le mot kabar, hein, parce que ça veut aussi dire quelque chose.
Plutôt sur le mot kabar, maloya, c'est la musique traditionnelle des gens qui étaient esclaves à l'époque, donc très revendicatif. Et ça, ce serait plus les historiens qui pourraient mieux en parler que moi. Elle était interdite, cette musique, à La Réunion, maloya. Et c'est vrai qu'il y a Jérémy Labelle qui fait souvent un parallèle comme ça en disant la musique Maloya a été interdite, la musique électronique a aussi été interdite par Thatcher, par en France sous Pasqua, etc., etc. Donc il y avait ce parallèle qui s'arrête là de toute façon. Et le cabar c'est la fête, mais c'est aussi la célébration un peu de qui est souvent sous l'égide de musique Maloya. Qui va un peu invoquer les esprits, ce côté trans un petit peu qui regroupe les familles, les amis, et on se regroupe autour d'un kabar pour fêter quelque chose ou pour célébrer ou pour la mémoire.
Et Nora, tu l'as évoqué juste avant, il y a une dimension politique à cette démarche de faire une compilation qui met en avant la création indo-océanienne. Là, il y a aussi une autre initiative qu'on a aperçue en cherchant un peu sur Internet, c'est Indian Ocean Hub. Est-ce que c'est encore en cours? C'est, je crois, une mise en réseau dans l'océan Indien de différents artistes.
Oui, ça c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un projet qui est assez long à mettre en œuvre. C'est pareil, faut être l'architecte un petit peu de quelque chose qui soit sud-sud. J'ai envie qu'il y ait des collaborations dans le sud plutôt que du nord-sud. On est très dépendant de la métropole sur bien des aspects. Et je trouve qu'on a déjà assez de richesses, que ce soit à Madagascar, à Maurice ou en Afrique du Sud, pour avoir quelque chose qui se crée ici. T'as plusieurs festivals qui existent. Il y en a un à Maurice, avec qui on est copains, la Isla qui sera là ce week-end. Un autre qui est à Mayotte, c'est encore plus compliqué Mayotte, ça s'appelle Kayamba. On a commencé à construire ce projet-là avec eux. On a aussi des amis à Cape Town, c'est le Cape Town Electronic Music Festival, qui font pas partie de ces projets de coopération parce qu'ils ont pas signé les accords internationaux. Donc ça, c'est encore des contraintes qu'on a, nous, par rapport à la métropole, puisqu'on est, on touche des régions qui sont pas dans l'espace Schengen et qui sont pas dans l'Union européenne. Donc on essaie de construire ça, c'est un projet qui est développé à La Réunion, on est porteur électropical et on a un dossier qui est en cours au niveau de la coopération régionale et du FEDER pour le faire financer. L'idée, c'est simple, hein, c'est transmettre du savoir, faire des ateliers, créer monter des résidences de création pour qu'ensuite ces artistes tournent sur pas un festival mais sur l'ensemble des festivals. Donc ils n'auront pas une date, ils en auront 3, 4, 5 en fonction des collaborations. Donc ça leur permet ensuite d'avoir une opportunité, une visibilité à long terme.
Pourquoi c'est important aujourd'hui de défendre cette création, et notamment cette création émergente indo-océanienne, mais aussi la réunionnaise, enfin la in fine. En plus, je tiens à le préciser, il y a quand même un projet en cours qui est une compilation volume 2. Donc on voit que vous continuez ce soutien-là, ce travail ensemble à l'endroit d'in fine. Donc il y a un label parisien, il me semble. Pourquoi c'est important aujourd'hui de soutenir?
Bah encore une fois, label parisien, mais si on regarde tous les artistes, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui est parisien, en vrai. quand je pense un peu à nos têtes de file, des Francesco Triciano, des Dina Abdelwahed, ou, enfin, il n'y a pas un seul vrai parisien dans l'histoire. Et encore une fois, on est tous hyper attachés, donc moi aussi, ayant grandi ici, à cette culture, on se rend compte que, mine de rien, encore une fois, l'Europe est un peu un vieux monde. Et qu'aujourd'hui, les musiques émergentes sont vraiment plus intéressantes hors de nos frontières. Et en vrai, on est quand même encore en France et le lien se fait beaucoup plus facilement. J'aurais jamais fait une musique, je pense, sur la musique underground chinoise ou coréenne, même si je pense que c'est très intéressant. Mais les liens sont beaucoup plus compliqués, ça nous parle moins à nous. Voilà, nous, là, c'est des artistes avec qui on se croise, où on se connaît. Le créole, ça parle quand même aussi de base de français. Enfin, il y a quelque chose, ouais, de hyper instinctif.
Et donc là, si vous faites un volume 2, est-ce que vous retravaillez avec les artistes de cette première compilation ou est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle scène? Est-ce qu'il y a une nouvelle vague là?
Ouais, c'est plutôt une nouvelle vague. Et surtout que la première compilation était plus comme une fresque historique de où on était parti à où on arrivait, entre guillemets, quand on l'a sorti en 2019. Et aujourd'hui, même dans le projet qu'on monte Digital Kabar avec les électropicales, on n'est plus justement sur cette zone océan Indien. Donc on va aussi retrouver des artistes de l'île Maurice, du Mozambique. Enfin voilà, on a essayé aussi d'ouvrir hors de la Réunion, même si vous allez retrouver quelques noms. Notamment, j'en discutais justement avec Label il y a quelques temps. On s'est rendu compte qu'il y avait certains, on parlait aussi de Daniel O'Haraud, mais moi je pense vraiment à Alain Peters. qui est un artiste qui n'a jamais été remixé, par exemple, où vraiment c'est des remixes horribles sur YouTube que personne ne voudrait jamais entendre. Et où sinon on s'est dit, voilà, on va plus travailler autour de, d'artistes, les gens en tout cas qui étaient déjà présents sur la première compilation, de plutôt leur donner un challenge d'aller retravailler d'autres titres qu'on n'a pas l'habitude de voir retravailler en 2024. Et sinon, nous vraiment sur une nouvelle scène.
Et Thomas, là, donc toi, tu as pu aussi, j'imagine, jeter une oreille et participer à ce volume 2. Est-ce que, qu'est-ce que tu en penses? Ça va être surprenant pour ceux qui vont le découvrir, ce volume 2.
Oui, parce que c'est, moi, j'aime bien raconter les histoires. Et là, c'est une histoire, c'est la suite de ce premier opus qui était une rétrospective. Là, on est plus dans, on s'inscrit dans le présent. Et surtout, comme le disait Nora, sur l'océan Indien. Donc, effectivement, ce projet sera beaucoup plus avant-gardiste, quoi. Et je sais que les artistes qui sont sélectionnés, c'est, on est dans le futur presque, quoi. J'espère qu'il y aura un volet 3. Là, on met la pression.
Et on sait que ça vous tient à cœur ici aux Électropicales.
Tout à fait, tout à fait. Ce projet-là, il est important parce que c'est notre visibilité à l'extérieur. Et je sais que le premier opus a eu un grand succès. Donc, le deuxième, c'est un peu l'aspect collection. Je vais te grignoter du temps d'antenne.
Non, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, vous avez été super généreux. Bon, déjà dans l'accueil de Radio Campus, mais aussi là pour ce plateau, vous nous avez donné en exclusivité un titre d'Alexandre Saïa qui est nommé Ziska Keller. Mais avant qu'on l'écoute, quand même, la question qui brûle les lèvres, c'est ça sort quand en fait ce volume 2?
Fin mai, début juin l'année prochaine.
Ok, bon ben en attendant, on savoure cet exclu tout de suite. Merci Enora Pellerin et Thomas Bordaise et bon festival.
Merci à vous.
Merci.
c'était Alexandre Saya avec le titre Ziska Keller et c'était une exclue. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus France.
17h, 18h en métropole, 19h, 20h en direct de La Réunion. Trois émissions en direct pour la 16e édition des Électropicales. Radio Campus s'installe à Saint-Denis de La Réunion. Radio Campus France.
Et on continue ce plateau en direct de Saint-Denis de la Réunion. Et je suis avec Nina de Campus FM à Toulouse. Salut Nina.
Salut, comment ça va Léna?
Bon écoute, on n'a vraiment pas de quoi se plaindre. Je crois que tu penses la même chose.
Ah oui, écoute, on est plutôt très très bien installé au Château Morange.
Ouais, puis on est gâtés aussi pour ce plateau. D'ailleurs, on va avoir l'artiste Label qui va bientôt nous rejoindre. C'est un pionnier de l'électronique Maloya. Et c'est aussi un artiste aux multiples facettes. Mais d'abord, durant le festival, on a rencontré l'artiste Sibou Manaï, qui, elle aussi, met à l'honneur les cultures créoles dans sa musique. On vous fait écouter ça.
Tu es artiste, autrice et compositrice, et tu es originaire de La Réunion. Tu es programmée au festival Les Électropicales. Au moment où on enregistre ce petit entretien, on est juste avant tes balances pour ce soir. Dans ta musique, qu'est-ce qu'on retrouve comme influence ?
Dans ma musique, on retrouve plusieurs influences. Y a toujours ce fil rouge un peu réunionnais avec des inspirations qui vont être les signatures de la musique réunionnaise traditionnelle. Je ne vais pas dire non plus que je fais du Maloya parce que c'est pas ça non plus le Maloya. Mais en tout cas, c'est fortement inspiré et il y a carrément... Ouais, des signatures, je pense que je peux l'appeler comme ça, vraiment des clins d'œil à la tradition qui m'inspire, mais il y a aussi beaucoup de musique électronique, des instruments voilà, qui marchent avec l'électricité. Je suis passionnée d'instruments électroniques et aussi il y a des instruments plus organiques, entre guillemets, avec des basses, des synthétiseurs analogiques, qui marchent aussi avec l'électricité d'ailleurs. Voilà, on peut dire qu'il y a plusieurs influences quand même. C'est une bonne salade composée.
Et justement, t'évoques le Maloya. Quand tu en écoutes, qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que ça représente pour toi comme musique ?
Quand j'en écoute, ça me fait pousser au pied des racines directement dans ma terre. Et ça m'évoque vraiment la notion de rituel et de spiritualité dans la musique. Pour moi, la musique, avant tout, c'est une approche spirituelle. Et le Maloya, c'est la définition pure un peu d'une approche spirituelle dans la musique. Donc quand je l'écoute, ou quand je suis devant un service cabaret, enfin plutôt un cabaret, parce qu'il y en a de moins en moins des services, mais je me sens particulièrement à l'écoute de l'environnement qui m'entoure.
Et ce nouveau mouvement qu'on connaît, qui est l'électronique Maloya, cette fusion que toi tu utilises d'une autre manière aussi dans ta musique, tu trouves que c'est une manière de perpétuer les traditions, de se les réapproprier ?
C'est une manière de sauvegarder une identité musicale. De faire du Maloya avec des instruments électroniques, ça me dérange un peu de dire ça parce qu'on ne fait pas du Maloya, c'est pas ça, mais par contre on va reproduire une signature musicale avec des codes musicaux, aussi bien qu'on pourrait jouer de la salsa ou de l'afrobeat ou du reggae avec des instruments électroniques. Donc en fait c'est pas non plus une appropriation, mais c'est un peu un hommage. Pour moi, en tout cas dans mon approche, c'est plutôt, aujourd'hui, par exemple, je suis à l'autre bout du monde, ou alors les anciens, ils ont disparu. Qu'est-ce qui me reste de mon héritage ? Dans mon sac, qu'est-ce qui me reste ? Ben, j'ai quoi autour de moi ? Et avec ce que j'ai autour de moi, comment je peux faire du Maloya ?
Merci à toi.
Merci à vous.
Et bon concert surtout.
Yes, I, merci.
C'était Sibou Manaï, qui est en ce moment même d'ailleurs en train de jouer normalement sur la scène de Château Morange pour les Électropicales et qu'on retrouve demain sur le dernier plateau de cette série. Et Label nous a rejoint. Salut Label.
Salut.
Tu la connais un peu, Sibou Manaï ?
Oui, je la connais un peu. On se connaît tous un peu à La Réunion. L'île est petite et grande à la fois. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit dans son interview. J'ai beaucoup aimé qu'elle parle de spiritualité, justement. Après, je suis pas totalement d'accord avec le fait que, justement, pour moi, on peut faire du Maloya avec des machines. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais effectivement, je comprends aussi pourquoi elle dit ça. Et non, globalement, on est sur la même longueur d'onde. Vraiment.
Ça tombe bien, j'allais te poser la question de qu'est-ce qui résonne ou pas pour toi dans ce témoignage-là. Pour rappel, tu es musicologue de formation, tu as grandi à Rennes avec un père réunionnais.
Ouais.
Maintenant, tu vis à La Réunion depuis un moment.
Ouais.
Et surtout, tu es un des artistes qui a grandement participé à diffuser l'électronique Maloya dans le monde.
C'est ça.
Tu vas faire un petit signe, dis-moi.
Pardon ?
Non, j'ai cru que tu me faisais un petit signe.
Non.
Est-ce que j'ai oublié un de tes titres ?
Non, c'est très complet. Juste. Merci. Ouais. Vraiment, c'est très synthétique et c'est ça. Effectivement, moi, je fais partie de ce qu'on appelle des enfants de Réunionnais, en fait, qui ont grandi en métropole, viennent de parents qui sont partis de la Réunion dans les années 60-70 avec le Bumidom, et qui, je suis un enfant de la diaspora réunionnaise, et ça apporte aussi autre chose dans la musique, dans le regard que j'ai de la Réunion, même si, comme tu le disais, maintenant ça fait très longtemps que je suis ici, mais j'ai toujours connu La Réunion soit par les vacances, en venant voir ma famille, soit de loin. Et en fait, le regard est vraiment très intéressant et un peu en décalage. Et du coup, ça se ressent aussi dans ma musique.
Et Sibumana, d'ailleurs, elle parle de que faire avec cet héritage et que ça passe aussi par ces codes qu'elle emprunte à la musique Maloya. Est-ce que toi, cette hésitation entre hommage et héritage, ça te parle aussi ? Est-ce que c'est des questions que tu te poses dans ta composition ?
Tout à fait. Et en fait, quand je parle de décalage, c'est vraiment le pas lointain de 10 000 km. C'est vraiment... Ça touche à cette question. Le
gros pas, ouais.
Et pour moi, c'est clairement de l'héritage, en tout cas dans ma position artistique. Parce que justement, en étant loin de la Réunion dans mon enfance, moi, ça, avec mon... Comment dire ? Dans ma famille, ça faisait 8 générations qu'il y avait des personnes à la Réunion, du côté de mon père. Donc, cet acte de partir, et pour beaucoup de familles, ça a été très fort dans les années 60-70, de se détacher de ce territoire. Et donc forcément, il y a un héritage qui transpire, même quand on ne vit pas ici, à travers la langue, à travers la cuisine, à travers beaucoup, beaucoup de choses, de la musique qu'on entend à la maison, etc., des expressions qui passent. Et forcément, moi, ça résonne, en tout cas pour répondre à ta question, comme un héritage. Qu'est-ce que je fais de cet héritage ? Comment je le réactualise aujourd'hui, si j'ai envie de le réactualiser ? Et en fait, on se rend compte que la culture, elle est vivante. Il faut tout le temps la réactualiser.
Et ce que tu attrapes dans ton parcours, notamment quand tu étais à Rennes, c'est l'électronique, du coup, la techno Détroit, il me semble.
C'est ça, c'est exactement ça. Ce que je disais tout à l'heure à un de vos collègues, c'est que moi, je suis en même temps un enfant des transmusicales de Rennes. Donc j'ai été très vite en contact avec beaucoup de types de musique très diverses, et notamment la musique électronique, celle de Détroit, qui me touche très particulièrement, et j'ai fait très, très vite des similitudes entre les deux. C'est des musiques qui ont des origines africaines, hein. La techno de Détroit, c'est une musique afro-américaine. Donc comme toutes les musiques afro-américaines, il y a un lointain lien avec l'Afrique et avec une certaine image de ce qu'on peut se faire de l'Afrique. Et c'est ça en fait qui est fort pour moi dans les communautés d'origine africaine. C'est dans le jazz, on l'a très bien vu, et dans le maloya, on le ressent de la même manière. C'est en fait cette vision un peu fantasmée, onirique de l'Afrique. Et ça, je l'ai vraiment... Et j'ai essayé de les connecter, en fait, quand j'ai commencé à faire ce mélange entre techno de Détroit et Maloya. Après, j'entendais tout à l'heure Thomas Bordès parler du côté revendicatif de la musique. Dans la techno de Détroit, avec Underground Resistance, il y a un message très fort qui a été porté dans les années 80. Et dans le Maloya, on se rend compte que c'est pareil. Alors, c'était plus en avance. C'était autour des années 60-70, le Maloya a été interdit. Mais voilà, bref, il y a plein de liens, finalement, qu'on peut dérouler pour tisser une musique entre ces deux cultures, l'électro et la musique traditionnelle qu'on appelle le Maloya.
Et là, on évoque tes grands amours, que ce soit entre tes racines et ensuite ce que tu as attrapé dans ton parcours, notamment la techno et tout ce qui prolifère. Mais ce qu'on ne sait pas là pour l'instant, c'est que tu es quelqu'un qui est très prolifique dans tes créations et que tu empruntes à énormément de courants musicaux. Je crois que tu es un grand fan des collaborations, oui, de manière générale. Enfin, il n'y a pas une seule de tes compiles, de tes albums, où il n'y a pas du lien avec d'autres artistes et qui viennent aussi de un peu partout dans le monde.
Tout à fait. Là, très récemment, je suis en train de lancer un projet d'opéra avec de l'électro et du maloya à l'intérieur.
Et avant, tu avais fait de l'orchestral aussi.
Et de l'orchestral. Et voilà, du coup, là, j'ai une petite pièce qui sort à la fin du mois à La Réunion avec un gamelan javanais. Parce qu'il y a un gamelan à La Réunion, donc ils sont 10 à jouer sur le gamelan. Et moi, je ramène mes machines avec des percus maloya. Bref, effectivement, j'adore ça. En fait, il y a quelque chose de aimer travailler avec des gens dont on ne connaît pas la pratique. Moi, j'adore le gamelan, par exemple, cet instrument indonésien qu'on entend dans plein de BO, dans des mangas, etc. Mais je ne sais pas en faire, donc du coup, j'appelle des gens qui, eux, savent en faire, qui ont cette historique-là, et j'essaie de trouver des ponts. En fait, le métissage me passionne, globalement. C'est un peu ça, mon fil rouge, c'est de créer des rencontres. Et pour moi, c'est quand Sibou parlait de maloya, d'esprit du maloya, en fait, l'esprit, il est là. Il est dans le mélange. C'est une musique qui vient du mélange de cultures, de populations qui se sont rencontrées ici, à La Réunion, pendant la période de l'esclavage, puis ensuite de l'engagisme, et ils ont fait quelque chose de nouveau ensemble. Voilà.
On parle du coup d'hommage, de métissage des musiques traditionnelles. Est-ce que pour toi, la fusion des musiques traditionnelles, c'est aussi un mode de résistance dans l'environnement mondialisé dans lequel on est ?
Fusion de musique traditionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par...
Fusion de, bah là en l'occurrence, par exemple, du maloya avec l'électronique ou les autres types de fusion que tu as pu évoquer.
Si pour toi c'est un message politique, c'est ça ta question ?
Pas un message politique, mais plutôt un moyen de faire perdurer et de transmettre aux générations actuelles et futures les musiques traditionnelles.
Alors c'est une très bonne question, parce que, et c'est pour ça que je te posais la question de la politique, c'est qu'en même temps, je pense que c'est essentiel, sinon ces musiques-là disparaissent. En fait, pour transmettre une tradition, rien de mieux que de la réinventer. Et réinventer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se la réapproprier. Et en même temps, c'est politique, parce qu'aujourd'hui, on a cette tendance à, de plus en plus, conserver les choses. Il y a un mouvement conservateur mondial au niveau
sociétal. On peut parler de régression, hein.
Voilà. Et du coup, ça empêche les mélanges, ça empêche les gens de se rencontrer, ça empêche les musiques de se rencontrer et de se renouveler, du coup. Parce que qui dit non-mélange dit consanguinité, qui dit consanguinité dit fin d'une espèce, fin d'une musique, bref, voilà.
Donc vive le métissage.
Bah oui.
Et dans les autres projets que tu as en cours, j'aimerais bien qu'on fasse aussi un retour sur la participation à Digital Kabar.
Oui.
Toi, tu as déjà eu une oreille là aussi sur le volume 2, on en parlait un petit peu avant dans le plateau, tu as entendu parler de tout ça ?
Oui, j'ai entendu parler de tout ça et pour ma part, je pense que je peux le dire, moi j'ai fait le lien parce que j'ai fait un travail de remix autour d'Alain Peters. Et quelque chose qui n'avait jamais été fait, il y a eu des reprises, etc. Et en fait, pour moi, si on doit remonter dans la genèse de Digital Kabar, pour moi, c'est Alain Peters. C'est le premier qui a voulu parler de la créolité sans tomber dans le folklorisme, avec des instruments d'aujourd'hui, de son époque en tout cas, c'est-à-dire la guitare électrique, des moyens modernes en fait. Et pour moi, c'est l'esprit Digital Kabar.
C'est complètement en lien en plus avec ce que tu évoquais avant, de tout ce lien entre le passé et l'actuel. Tu as sorti ton dernier album en 2023, c'est Noir Anima. D'ailleurs, on va écouter des sons de cet album juste après. Mais dernière question, tu as d'autres projets en cours? Bon, là déjà, il y a ce projet-là, mais un autre album devant peut-être?
Oui, il y a un projet, une création que j'ai jouée avec Vanessa Wagner il y a 2 ans. C'est un concerto pour piano avec électro et maloya. On a joué à Rennes pour le festival Maintenant. Et ça a été enregistré et ça devrait arriver en album prochainement.
Et est-ce que tu dors de temps en temps au milieu des instruments?
Oui,
en tout cas, non, ben, merci beaucoup pour tes créations et ta participation ici
merci
sur ce plateau.
Merci.
Et d'ailleurs, ben, on écoute tout de suite Ciel de l'album Noir Anima, label Infine de Label.
C'était Ciel de la Belle. Je suis toujours avec Nina en direct de Château-Morange pour le festival Les Électropicales. Et nous accueillons sur le plateau Force Indigène. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Force Indigène, c'est un groupe de hip-hop qui a sorti l'album Zamalgam en 2004. Un album empreint de samples, de maloya et de poésie mettant à l'honneur la langue créole. Cet album, il est réédité en vinyle à l'occasion de la soirée de ce soir, Digital Kabar, pour laquelle vous vous reformez après 20 ans de mise en pause du projet, et il est disponible sur la billetterie du festival Les Électropicales. Pour parler de cet album, je suis en compagnie de Francky Laurette et de Babou Bjala, et la première question que j'avais envie de vous poser, c'est celle de votre rencontre à tous les trois avec Jaco Marron, qui a produit les sons qui accompagnent vos textes sur l'album.
Bonsoir. Alors moi je dirais que c'est dans le rond du Kabar fond de cœur. Le Kabar fond de cœur, c'est l'endroit où les poètes à La Réunion viennent dire des textes en créole depuis au moins les années 70. Et nous on s'est rencontrés dans là-dedans déjà, Babou et moi.
Un petit peu avant au lycée, mais
oui.
Mais c'est
date,
vrai que
vous connaissez
mais
plus longtemps.
Mais dans le cabaret, c'est vrai que avec le projet Jaco Marron, c'est dans les cabarets fond de cœur. Hein.
Parce que Jaco s'est retrouvé dans les cabarets fond de cœur. Jaco s'est retrouvé à venir faire créateur sonore dans les ambiances de cabarets fond de cœur. Et là, et après on s'est rencontrés aussi de manière personnelle et individuelle parce que nous connaît de Mounaf présente à nous.
Oui, il y a des gens qui vous ont présenté les uns les autres. Ok. Et donc c'est Kabar Fond de Cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce que c'est le Fond de Cœur?
Alors Fond de Cœur, c'est la poésie, dans ses traductions hein, littéralement ce serait poésie, voilà tout simplement. Fond de Cœur, état d'âme, voilà. Et le Kabar en fait c'est un mot d'origine malgache, même arabe, en fait ça veut dire discours. En malgache on le prononce Kabar. Et à l'île de La Réunion, l'histoire a fait que, au-delà de du discours, c'est devenu la fête. Voilà. Et donc c'est un espace où voilà, il y a le maloya, il y a le fond de cœur. Dans les cabarets, il peut même avoir un peu de sega. Et en fait, pour moi, pour ma part, hein, c'était un travail sur savoir d'où ce mot vient. Et maintenant on s'est fixé, il vient de Madagascar pour nous, hein, le lien le plus direct. Et peut-être Patrice Rotard qui est là ce soir, d'ailleurs un poète de l'île de La Réunion, qui l'a mis au goût du jour. Et il en a fait un mot, d'un espace qui réunit les poètes et musiciens maloyères. Et moi je pense que c'est lui, hein,
c'est ça
qui...
et dans la seconde moitié du 20e siècle, donc là on est dans les années 70 à La Réunion, la langue n'a pas d'espace et elle n'est finalement, si vous voulez, la France ne va nommer la langue créole qu'en 2001, en la mettant comme langue vivante régionale, puis langue de France. Mais toute cette période des années 70, 80, même depuis 1960, pour la langue et pour la culture, il y a eu une lutte à mener. Et le Kabar Fond de Cœur était l'endroit où les militants culturels et politiques aussi à l'époque libérer la parole
en créole,
voilà. Et c'est passé par la littérature. Donc finalement, Babou chante un peu, mais moi, il m'est interdit de chanter. Il m'est interdit de toucher un instrument, donc je suis vraiment.
Tu ne peux faire que du fond de cœur. Je suis dans la, voilà.
Non, pas que dramaturge.
Dans l'écrit et le dit et le livre.
Donc ça passe également par l'écrit, ce qui est une pratique un petit peu plus récente.
En fait, on a des traces écrites depuis le 19e, voire le 18e. Mais
le fait d'éditer des textes.
Oui, ça s'est beaucoup développé à partir de ce que je viens de raconter. Et ça continue. Et il y a et ça devient quelque part, comme c'est transgénérationnel, et que c'est un espace sociolinguistique transmis pour qu'il se passe des choses et qu'on se dise des choses. Je crois qu'il y a beaucoup de. Nous-mêmes, c'est un espace qui nous a nourris, parce qu'on est arrivé avec une appétence pour le poétique, pour le maloya, mais aussi pour le rap. Et là, on est ado, enfin, il y a 20 ans de ça.
Ah oui, durant ado.
Enfin, moi, j'étais ado, un petit peu plus vieux.
D'un an, alors. Mais
vous étiez au lycée ensemble, donc.
Oui, on était au lycée, mais donc en 2004, on avait quand même touché la vingtaine. Mais c'est vrai que.
Nous, dans l'évolution, on est venu après. Un jour, j'entendais celui qui est assis à côté de moi dire « Ils ont nourri nos rêves et nous, on voulait absolument rêver comme eux. Ils ont apporté cette langue, à portée de langue, justement, à portée de doigts, à portée de pensée. Et on avait envie de se l'approprier. La poésie, pour nous, c'était Verlaine, Apollinaire. Et on découvrait des Patrice Retard,
des Boris Gamaleya.
Voilà, donc des auteurs de La Réunion qui parfois étaient nos voisins et on ne savait pas. Et en s'intéressant à cette écriture créole, on s'est dit que on sait faire. C'est notre langue. Donnez-nous les dictionnaires, on fera mieux même. Et voilà.
Et ce qui nous guide aussi, ce qui nous rassemble, c'est l'amour des mots avant tout. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que jouer avec les mots, dribbler avec les mots, enfin, habiter le mot. C'est ça qui a fait que c'est 20 ans après, mais pendant ces 20 ans, en fait, on n'a jamais arrêté d'habiter le mot.
Donc, vous avez habité le mot, vous l'avez rencontré aussi celles et ceux qui font vivre la langue créole. Et là, on a une artiste qu'on allait rencontrer qui, elle, est autrice, compositrice, interprète réunionnaise et qui nous raconte sa rencontre avec le Maloya. Et elle s'appelle Djalia, on écoute ça tout de suite.
Ça m'a toujours paru comme une évidence parce que dans nos réunions familiales, au moment où il y avait du maloya, je voyais les gens de ma famille se transformer, quoi. Je pouvais assister à une étincelle et à une folie vivante chez eux auxquelles j'avais jamais été confrontée avant, quoi. Donc j'ai compris que le maloya était assez spécial et qu'il ramenait chaque membre de ma famille vers quelque chose qui nous dépasse et que là-dedans j'allais comprendre l'essence de mon histoire et l'essence de ma famille même, en fait. Aujourd'hui, de par mon métier ou mes activités, je suis confrontée à la jeunesse, mon pays. Nous bonne main à main et c'est que nous ça laisse la réunion dans notre main demain. J'ai peut-être pas vu le temps passer, mais aujourd'hui j'ai quand même un certain âge, je ne suis plus considérée comme une enfant. Et par rapport à cette jeunesse-là, j'ai une mission. Et on se rend bien compte que notre héritage ancestral est très fragile et que notre mission est primordiale. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à des jeunes qui, de par la mondialisation et un peu comment le système est installé à La Réunion, sont très 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 loin d'imaginer notre réunion d'antan ou d'avoir en main les outils qu'il faut pour comprendre leurs racines. Si je laisse la transmission dans la main des mauvaises personnes, je vais peut-être me confronter à une réunion dans 10 ans qui pourra être vue qu'à travers des vitres d'un musée. Ah, regarde, avant on faisait comme ça. Et je pense que c'est notre plus grande peur.
Je lui ai aussi demandé ce qu'elle pensait du Maloya fusion et notamment de sa fusion avec l'électro.
De base, en tant que personne, l'électro ne fait pas partie d'un genre musical qui me parle. C'est-à-dire qu'il va me parler une fois qu'il sera mélangé à des rythmes ethniques, style amapiano. C'est un peu l'essence de l'électro mélangée à l'essence de l'ancestralité sud-africaine. Comme je suis très proche des percussions, ça me parle beaucoup. Maintenant, en ce qui est du mélange maloya-électro, parfois j'ai un peu de mal car les codes ne sont pas respectés. Après, quoi qu'il en soit, la musique est vivante et tant mieux si notre... J'exagère, mais notre petit maloya plaît aux styles musicaux les plus programmés dans les festivals, etc., etc., etc. Mais comme mon message de tout à l'heure... Mon combat à moi, c'est que mon enfant sache que le maloya, c'est pas ça. Et j'espère qu'il ne restera pas que que ça pour son apprentissage de sa culture.
Est-ce que ça vous évoque certaines choses? Il y a différentes approches en lien avec la transmission. La Belle nous a parlé de sa vision à lui, qui était plutôt que le métissage et la fusion permettraient de faire perpétuer la culture. Là, on entend une approche un petit peu différente.
Bon, moi, je partage en partie ce qu'elle dit. Moi, je suis issu d'un milieu cabaret aussi, et d'où l'importance pour moi d'aller chercher ce mot. Hein. J'ai un grand-père qui menait des services cabaret, donc l'hommage aux ancêtres. Et c'est vrai que je l'imagine très peu arriver avec ses platines pour faire danser mémé ou faire venir l'ancêtre. Ce qui fait que, oui, on s'approprie, on inscrit les choses dans la modernité, c'est important, mais il est aussi important de transmettre le rite tel qu'il est, à l'état le plus pur. Par contre, après, rien n'empêche aux générations actuelles d'apporter tout le modernisme, la technologie, pour les jeunes diront sublimer peut-être, mais moi je dirais plutôt pour démocratiser, le rendre accessible aux nouvelles générations et créer la passerelle vers le rite.
Toi, Jackie?
Moi je dirais qu'en fait dans les deux cas il y a un processus de créolisation. Et si on monte, on recule et qu'on arrive à la naissance du Sega, on voit que le Sega, c'est du quadri.
Ouais, c'est du
quadri européen qui arrive à La Réunion, qui rencontre les musiques de l'espace créole réunionnais et qui finit par devenir le quadri créole, puis le Sega. Et ce qui m'intéresse, mais c'est le cas de beaucoup de choses. Et dans ce processus-là, comme on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait, ça invite à réfléchir à la comparaison entre créolisation et mondialisation. Et dans la mondialisation, ça va être une culture, une pensée hégémonique qui part et qui s'installe sur tous les territoires.
Alors que dans la créolisation.
Et dans la créolisation, il y a un processus de perte et de gain et de création de quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant.
De manière perpétuelle en plus.
Et ce processus-là, dans tous les domaines artistiques à La Réunion, on peut le lire et on pourrait se dire oui, mais c'est que des situation de contact et d'échange entre langue et culture, mais il me semble que quand on va sur le mélange, on arrive sur le multiracinaire, on fait éclater cette idée d'une identité monolithique, et ça c'est la pensée forte de la créolité, quel que soit l'espace dans lequel on se trouve.
Merci beaucoup pour vos retours et pour ces éclairages.
Merci à vous.
Selon moi, eh bien, on a hâte de vous entendre très très prochainement à 20h30 sur la scène du Château Morange.
Ça m'a même.
On y sera.
Eh bien, nous aussi. Et pour les auditeurices, on va se quitter tout doucement. Un grand merci au CROUS La Réunion Mayotte et bien sûr au festival Les Électropicales pour ce partenariat avec Radio Campus France. Et la joie et le plaisir aussi. Merci à toi, Nina.
Merci à toi, Nina.
Et merci parce que ça te donne à nous la force pour avancer.
Merci. Et merci à vous, auditoristes, pour votre écoute. On vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la dernière partie de l'aventure. Belle soirée à toutes et à tous.